cigarette. Pourquoi pas ma femme pendant qu'il...
J'ai des doutes, l'un des sketchs les plus fameux de Raymond Devos, écrit dans le courant des années, la fin des années 50. On va retrouver l'artiste dans une émission télé présentée à l'époque par Philippe Geluck en 1989.
Bonjour maître.
Asseyez-vous.
Merci beaucoup. Comment ça va Philippe?
Mais bien et vous-même, je comprends pas.
Pourquoi?
Comment on a dû vous demander tellement longtemps de venir ici? Vous êtes là enfin?
Oui, mais moi j'aime bien me faire prier.
Ah ça doit...
Alors là, j'ai attendu qu'on dise « Monsieur Devos, s'il vous plaît, venez, venez ». J'ai dit « Redemandez-le-moi encore une fois, venez ». Puis à la fin, j'ai dit « Oui, je suis venu ».
Vous trouvez qu'il y a beaucoup de différence entre la télévision et la scène?
Ah, il y a une très grande différence. Il y a une magie en moins. C'est pas rien. Nous, on le sent. Je sais pas si le public le sait, en tout cas le public de la télévision. C'est pas du tout ni une critique ni un reproche sur la télévision, parce que la télévision c'est un art extraordinaire, mais ce n'est pas tout à fait le nôtre. Parce qu'il y a une magie du lieu. Je crois que les gens qui sont ici dans cette salle doivent s'en rendre compte. Il y a une magie du lieu. Et ça, ça ne passe pas de l'autre côté de l'écran. De l'autre côté, on voit des images, on voit des choses, mais il n'y a pas d'odeur.
Mais il y a un avantage tout de même, c'est qu'on vous voit de très près. Alors que je vous ai vu il y a quelques jours au théâtre, j'étais tout au bout de la salle et je vous voyais grand comme ça. Et à la télévision, tout le monde vous voit bien.
Oui, mais plus je suis petit, plus je suis à mon aise.
Très bien.
Je trouve que d'être petit, c'est formidable. Moi, je voudrais tout petit par rapport à vous, je vous parlerai comme ça.
Non, je vous en prie.
Comment allez-vous,
Je vous en prie.
Et alors, vous vous sentiriez comme ça et vous direz « Ça va, mon cher Devos ».
Je n'oserais pas.
Oui, ok.
Vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer sur les mots. C'est votre matériel. Au fond, c'est votre...
formidable, les mots, mais les gens le savent. C'est quand même la façon la plus intelligente de s'exprimer. Je ne dis pas que le mime, c'est pas formidable, ni que la danse, tous les arts, c'est formidable.
C'est gentil pour les musiciens.
Mais
oui.
Quand même, c'est par le truchement du verbe que l'on s'exprime le plus intelligemment.
Ou le plus bêtement aussi.
Le plus bêtement aussi. Hein. Mmh. Et c'est sûr, ils peuvent venir n'importe quoi, c'est toujours comme ça. Bon, enfin, bon. Mais je veux dire, jouer avec les mots. C'est un jeu de l'esprit. C'est même jouer. C'est plutôt un jeu d'esprit qu'un jeu de mots. Il faut pas... Le jeu de mots, quelquefois, c'est un peu bête. Bout de ficelle, je ne sais pas quoi. Non. Quand on se met à jouer à ça, c'est triste. Mais quand l'esprit joue sur des mots, c'est parce que les mots te prêtent au jeu. C'est parce que les mots sont troubles. Hein, ils sont chargés de quelque chose. Parce qu'à force de s'en servir, de les mettre en bouche, chacun y a mis une intention. J'exagère un peu. Mais chacun y a mis une intention particulière. Et ce mot, finalement, est chargé. C'est-à-dire il bouge, il vibre. Alors quand on met ce mot, quand on le place bien dans une phrase, il se met à rendre ce qu'il a, c'est-à-dire à bouger comme ça, comme une couleur. Les peintres le diront, hein, quand on place une couleur à la bonne place, c'est-à-dire à côté d'une autre couleur qui la met en valeur, les deux couleurs font ça. Ça, c'est la vie. On ressent quelque chose. Mais les mots, c'est pareil. Quand ils sont bien en place, ah.
Vous avez certainement l'impression qu'on les utilise, bien sûr, pas toujours à bon escient. Il y a des gens qui parlent pour parler.
Ah ben oui, c'est parce que moi, un jour, je voulais écrire un texte, et il y a longtemps que je n'en avais pas écrit, et je n'avais aucune idée. Ça peut arriver. Et je me suis dit, j'ai quand même écrit un texte. Et j'ai commencé par dire, mesdames, messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Ce qui est tout de même honnête. Alors je sais, vous allez me dire, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Ben évidemment. Mais c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Alors là, non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache. Je veux en faire profiter les autres. Mais si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais, me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. Car rien, c'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Ben, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Une fois rien, bon, c'est rien. Bon. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Ben alors maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien, multiplié par rien égale rien, trois multiplié par trois égale neuf, ça fait rien de neuf. Oui, c'est pas la peine d'en parler. Tenez, parlons de la situation, sans préciser laquelle. Si vous me permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelque temps, souvenez-vous, la situation tournait trop pas pire que celle d'aujourd'hui n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables de la situation d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui si mes calculs sont justes. Or, Philippe, que nous voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons?
La question reste posée. Retrouvons une dernière fois Raymond Devos dans l'émission Dites-moi avec Michel Cédric, enregistrée chez lui dans sa maison de Saint-Rémy-les-Chevreuses. On est dans les Yvelines où il a vécu pendant plus de 40 ans. C'est une maison qui est devenue d'ailleurs un musée comme l'humoriste le souhaitait. On peut y découvrir de nombreux effets personnels, dont 17 instruments de musique avec lesquels Devos jouait sur scène.
Mais parce qu'à un certain moment, je faisais de la trampoline. Une espèce de c'est formidable, hein, pour moi, c'était formidable. Avant, je faisais des sauts périlleux, hein, s'il vous plaît. Mais vous savez que le saut périlleux, hein, il faut pouvoir le faire. Hein. Et il faut une élévation, et puis tourner, et puis retomber sur ses pieds. Et moi, j'ai passé l'âge. Et j'avais trouvé le moyen quand même d'en faire. Si c'est avec un tremplin, je me faisais aider d'un tremplin. Alors c'était formidable. Je sautais à des 2-3 mètres. Et puis je tournais, je retombais. Alors je donnais une impression de légèreté formidable. Et puis je me suis fracturé le sternum. Bêtement, c'est très
fini,
dangereux.
Fini le trampoline.
Ah oui, alors c'est fini. C'est embêtant hein, de faire des croix. C'est embêtant. C'est très embêtant. Parce qu'on en fait une, bon, c'est pas grave. Hein. On pâlit. C'est peut-être ça. L'âge, ce qu'on appelle l'âge. Et moi, je fais des croix. Je ne voudrais pas en faire beaucoup encore.
Qu'est-ce que vous faites dans votre parc quand vous faites des mouvements là, un petit peu bizarres? Vous levez les bras vers le ciel?
Je me recharge. J'allais dire à tort ou à raison. J'aime penser qu'on peut se recharger. D'ailleurs, j'y crois au fond. J'y crois.
Vous vous déchargez des ondes négatives?
Oui, en envoyant les ondes mauvaises dans le sol. J'aime bien ça, bel exercice, finalement.
Non, vous venez de me dire que vous y croyez quand
mais
même.
Mais oui, j'y crois, oui. J'y crois parce que je sens. C'est comme des fluides. C'est comme la personne qui est en face de vous. Vous la sentez ou vous la sentez pas. C'est comme le public, quand on rentre. Oh, je sais bien qu'il faut pas trop parler de ça parce que ça ne se mesure pas. Les gens raisonnables, vous direz, monsieur, les ondes, ça ne se mesure. Et pourtant, il y a des phénomènes. La magie, ça existe. Il y a des phénomènes physiques. Quand on rentre sur scène, que l'on s'ouvre. J'allais presque dire que l'on émet. Cette espèce d'appel. Il y a le public qui renvoie quelque chose. Sans ça, ce ne serait pas possible. Eh bien, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, il y a ce qu'on appelle une ambiance. Hein. Il y a quelque chose qui se fait. Et si ça ne se fait pas, en ce qui me concerne, sur le plan du spectacle, c'est raté. C'est un rendez-vous raté. Mais à moi, j'ai la chance... C'est difficile de parler de soi. D'être aimé du public, sans doute, parce que je l'aime. Parce qu'il le sent.
Vous culpabilisez quand vous voyez que... ça vous est déjà arrivé, des salles qui ne réagissaient pas bien.
Oui, c'est-à-dire que je pense n'avoir jamais dit en sortant « ils sont mauvais ». Je pense avoir dit « ils sont durs », c'est possible, c'est leur droit en plus. Mais c'est toujours de votre faute. C'est quand même moi qui invite les gens à venir se distraire. Il faut donc que j'en sois capable. Ou alors c'est une vantardise.
Oui, mais il y a quand même aussi le public qui peut être, vous savez, ce qu'on appelle en humeur de jeu ou non.
Mais bien sûr. Mais quand on est fort, hein, on renverse la situation. Et je crois que, même si c'est perdu et qu'on a fait le maximum, encore une fois, on va philosopher, on n'a pas de remords. Les remords, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Eh bien, quand un artiste n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'il sort et qu'il feint de l'ignorer, c'est dommage pour lui. Il sort, moi, si ça n'a pas marché, je suis vraiment... décomposé. Ça m'est arrivé, surtout à mes débuts. Je me souviens quand je travaillais avec Brel. On jouait, où je faisais la première partie et lui la deuxième, ou inversement.
Hein. Ici, Trois Baudets, vous étiez avec lui.
Entre autres, voilà. Ah, oui, bien sûr. Voilà, Jacques Brel, bon, c'est quel souvenir. Mais là, il était encore, on était de petits artistes. C'est-à-dire qu'à l'époque, aux Trois Baudets, Jacques Brel, enfin, etc., Jean-Marie Prolier, les trois messieurs, et il y avait Félix Leclerc, il y avait tout le monde y est passé. Eh bien, il n'y avait pas de à part la vedette, mais on se remplaçait, on disait, dis donc, demain, ça ne t'ennuie pas que je passe à Mantois? Non, pas du tout.
Il n'y avait pas de préséance. Chacun faisait son métier d'artiste, venait divertir les autres, et puis il s'en allait. Mais il y avait... Bon, enfin, je veux dire, c'était quand même une période bénie. Mais à un moment où Brecht était vedette, et moi aussi. Alors, quelquefois, il passait en première partie, alors, non, derrière Brecht, il fallait ça. Hein. Mais simplement pour dire que Brecht ne comprenait pas très bien que lorsque ça n'avait pas très bien marché pour moi, lorsque je sortais de scène, j'étais décomposé.
Oui, vous lui avez même dit un jour, moi c'est fini, j'arrête.
Ah ben bien sûr, mais je le dis souvent.
Ah oui.
Le soir, en quittant, mais jamais le lendemain matin. Hein. Et lui, je crois qu'il était un peu pareil.
Vous aimez en reparler alors qu'il n'est plus
beaucoup,
là
j'aime beaucoup reparler de ça simplement. Mais je vais vous dire là, je cite Brecht simplement parce que Brecht, qui était un chanteur, peut-être le chanteur le plus expressif, j'ai jamais vu de chanteur aussi... comédien aussi, j'allais dire, excusez-moi le terme, bête de scène. Bref, quand je sortais de scène et que les gens n'avaient pas trop ri et que je m'en plaignais, ils ne comprenaient pas. Il avait raison, c'est du divertissement. Mais pour moi, c'est ma vie. Je suis né pour ça, c'est une vocation. Je n'atteins pas mon but si je rentre sur scène et que je n'arrive pas à faire rire les gens. Il y a un effondrement. Je dis,
Mais vous l'avez dit, c'est ma vie. En fait, l'écriture et la scène, c'est votre vie. Alors, je me demande un petit peu, quand même, si vous n'avez pas laissé votre vie privée un petit peu au second plan, non? Parce que les femmes, là-dedans,
sûrement,
l'amour...
Mais sûrement, non. L'amour, non, parce que l'amour, on ne peut pas retirer l'amour, on ne peut pas effacer l'amour. Donc, il est fort, il se défend. C'est pas ce que je veux dire. Mais il est évident que ma vie privée, je m'en suis pas soucié. Ma vie privée se confond avec ma vie d'artiste. Ça, peut-être, je crois que par moments, c'est quand je m'arrête un peu et que je repense à ça, je dis effectivement que je n'ai pas tellement vécu ma vie d'homme.
Vous avez des regrets.
C'est difficile à dire, parce que c'est une vocation. C'est plus fort que tout. Je suis obligé d'exercer mes études. Je suis fait pour ça. Donc... C'est une nécessité, mais il faut bien faire des sacrifices. Je crois qu'on est toujours esclave de quelque chose. Alors, il vaut mieux être esclave d'une passion. C'est pour ça que je ne lui en veux pas trop, à ma passion. Hein. Mais je pourrais de temps en temps lui dire, qu'est-ce que j'ai sacrifié pour toi? Il y a un tas de choses que je n'ai pas voulu voir pour ne pas me laisser distraire. Moi qui a pour profession de distraire les autres. Il faut choisir. On ne fait pas impunément le métier que je fais. Je crois que c'est un métier tellement fort. Vous vous rendez compte, la prétention de distraire les autres, ça mérite quand même quelques sacrifices. Mais ce sont des sacrifices qui sont parfois très lourds.
Pas avoir d'enfant, par exemple, c'est un sacrifice.
Mais sûrement, c'est quand même l'événement le plus important dans la vie d'un homme. Et d'une femme, peut-être encore plus d'une femme. Mais avoir un enfant, c'est-à-dire... C'est un peu une éternité, quelqu'un qui vous succède. Moi, quand je parle de succession, c'est des petits textes comme ça, des petites histoires.
C'est pas mal, quand même.
Oui, je suis papa des petites histoires, je suis modeste. Hein. Alors évidemment, de temps en temps, je prends mes petites histoires par la main et je fais rentrer toute ma petite famille nombreuse sur scène et je montre mes enfants. Bon, c'est une image. Bon, mais c'est
vous
bon.
En avez beaucoup des enfants, hein, parce que quand on voit l'intégrale...
150 Plus de 150. Mais... Au fond, c'est ça. Je prends mes enfants, comme ça, par la main. J'y venais, venez, on va aller voir les gens. Et puis, on va les amuser. Alors, attends, c'est des drôles, hein. Alors, une fois, je rectifie, ton chapeau, mets-le un peu sur le côté. Toi, là, tiens, mais écoute, mets un nez rouge quand même, toi. Toi, mets un nez rouge. Toi, t'as l'air un peu triste. Hein. Toi, t'es blême. Alors, accentue, mets un peu de phare. Tu vas devenir tout blanc, hein. Et je mets tout mon petit monde, tout ma comédia de l'art, là. C'est moi, ça. Alors, évidemment... Est-ce que ça compense la vie, la puissance de la vie? Il faut des saltimbanques. Il faut des représentants de quelque chose. Et quand on est fait pour ça, il faut l'accepter.
Voilà, Raymond Devos qui nous a quitté le 15 juin 2006, ici avec Michel Cédric. C'est une séquence qui a été réalisée par Laurence Sarianoff avec les archives de la Sonuma que vous pouvez retrouver bien sûr sur Ovio et sur les plateformes de la première.be.